Faut-il craindre le bioterrorisme génétique? Le ministère de la Défense et le Conseil national consultatif de biosécurité se sont penchés sur le cas épineux de la technique d'édition de l'ADN CRISPR-Cas9 dans un rapport dont les conclusions viennent d'être rendues publiques et la réponse faite par les scientifiques montre que les préoccupations vont bien au-delà du seul cas CRISPR. Bonjour Antoine Danchin.
Bonjour,
vous êtes professeur à la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre de l'Académie des sciences, et vous avez coordonné donc le groupe de travail qui a rédigé ce rapport. Pourquoi d'abord rendre public seulement les conclusions de ce rapport? Le corps de votre réflexion est trop sensible pour être communiqué?
Non, mais nous pensons en général que faire trop de publicité sur ce genre de problème n'est pas bienvenu. Si vous voulez, l'idée est assez simple. Nous avons fait, pour commencer, une analyse de la typologie des acteurs malveillants possibles, ce que les Américains appellent profilage, et on se rend compte que l'aspect publicitaire, le fait de se faire connaître, de se faire voir, etc., est mis très systématiquement en avant. Donc, nous souhaitons mettre moins en avant les choses.
Donc, ça veut dire en quelque sorte que vous êtes mis dans la peau de bioterroristes et vous avez imaginé ce que vous pourriez faire avec les techniques actuelles.
Ça revient un peu à ça, oui.
Est-ce que vous pouvez...
mais évidemment, vous dites bioterroriste, non. Quand je dis nous avons analysé les acteurs possibles, ça va depuis l'État voyou, on peut penser à la Corée du Nord, jusqu'à simplement des gens qui localement voudraient se venger de quelqu'un qui ne leur plaît pas, si vous voulez. Donc il y a un continuum entre des États organisés et des individus ou des groupes d'individus.
Est-ce que vous pouvez quand même nous donner des exemples de menaces que vous avez imaginées?
Les menaces, alors, il y a deux choses différentes. Un certain nombre de menaces ont été identifiées par les services en général. On s'est aperçu, par exemple, que la secte Daesh a fait des recherches pour savoir si elle pourrait utiliser des armes biologiques. Elle a utilisé des armes chimiques. Donc, l'information est là directement. Donc, nous n'avons pas été au-delà de ce qui est déjà connu.
Les techniques de modification de l'ADN connues aujourd'hui permettent de créer des virus et des bactéries plus dangereuses que celles qu'on trouve naturellement?
Non, alors la question n'est pas du tout celle-là. Si vous voulez, j'ai l'impression, quand j'entends une question de ce genre, que effectivement nous sommes dans un pays où l'artisanat a complètement disparu. C'est-à-dire que si on va chez un ébéniste, on se rend compte qu'il y a une énorme différence entre le fait, pour un individu, de faire un objet de très haute qualité et le personnage qui viendrait dans l'ébénisterie et verrait tous les outils et se demanderait comment faire pour réaliser quelque chose qui soit inventif, si vous voulez. Donc l'activité inventive, ça c'est quelque chose de tout à fait à part.
Alors Antoine Danchin, justement, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui inquiète réellement dans ce domaine du génie génétique aujourd'hui? Alors on parlait de CRISPR-Cas9, qui est une technique comme une autre, on parlait de bricolage de l'ADN, mais qu'est-ce qui est possible aujourd'hui?
Alors justement, ce que nous avons repéré, c'est que, en fait, c'est la connaissance des génomes qui apporte le danger principal. Le fait de connaître le texte génétique des organismes pathogènes, en particulier de virus, en parallèle avec le moyen de les construire, simplement de les construire, est particulièrement dangereux. Et donc, on a été mis sur la piste par, tout simplement, j'allais dire à nouveau, la publicité à propos d'une technique qui rend les choses beaucoup, beaucoup plus faciles quand il s'agit de reconstruire ou éventuellement de modifier quelque chose. Mais je vous signale d'ailleurs que la technique CRISPR-Cas9 est surtout utilisée pour détruire des gènes, et en particulier détruire simultanément, plutôt qu'en construire. Donc ça, je pense qu'il y a une assez grande confusion dans les objectifs des techniques et cette idée un peu monstre de Frankenstein, où on va fabriquer quelque chose qui soit plus efficace que la nature. En fait, ce qui nous a paru tout à fait clair, c'est que la nature elle-même est en général infiniment plus dangereuse que tout ce qui est artificiel.
Donc vous voulez dire que le danger, ce serait de recréer des maladies qui seraient éteintes plutôt que d'en fabriquer des nouvelles?
Exactement. Et il y a un exemple très simple, c'est celui de la variole. La variole donc a été éradiquée au milieu des années 70. On a arrêté plus exactement la vaccination au milieu des années 70 parce qu'on l'avait éradiquée. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun réservoir sur Terre. Donc on pouvait imaginer détruire les stocks, et puis il n'y aurait plus rien, la maladie n'existerait plus. Mais maintenant que la séquence du génome a été faite. La séquence, c'est un texte. Ce texte est propagé facilement par Internet, sans risque de contagion. En revanche, si à partir du texte, on sait reconstruire le génome du virus, alors on a fait réapparaître la variole.
Ouais.
Et ça, c'est réellement, réellement dangereux. Il y a une souche particulière, par exemple, qui va jusqu'à 75% de mortalité.
Ouais. Qui pourrait faire ça, justement, aujourd'hui? Est-ce qu'il faut être d'abord un bon informaticien ou avant tout un bon biologiste?
Alors, ce que je vois là, c'est ce que je redis à propos de l'artisanat. On se rend compte immédiatement qu'il ne suffit pas de passer par Internet et d'extraire l'information pour pouvoir réussir à faire la construction en question. D'autre part, par exemple, pour la variole, la construction est évidemment très dangereuse pour celui qui l'a fait, donc ça pourrait être dissuasif, si vous voulez. Donc n'importe qui ne peut pas le faire. En revanche, ça nous a permis, et c'est une des recommandations principales que nous allons faire, c'est de faire en sorte qu'on ait une sorte de charte de déontologie ou de, disons, d'exploration des actes malveillants possibles pour tous les biologistes qui entrent dans un laboratoire. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience que, ceux qu'ils font peuvent éventuellement avoir des usages malveillants. Je vous signale d'ailleurs que la plupart des journaux de microbiologie posent, au moment où le relecteur juge sa valeur, pose la question de savoir est-ce que ce travail peut avoir ce que les Américains appellent un usage dual, c'est-à-dire un usage malveillant. Donc ça, la prise de conscience est faite systématiquement maintenant, au moins à l'échelle des journaux.
Est-ce que, selon vous, les scientifiques qui maîtrisent ces techniques doivent être encadrés, que ce soit de la protection ou de la surveillance?
Alors, je suppose que non, ces techniques sont assez banales, tellement répandues qu'on ne pourrait pas imaginer faire une surveillance générale. Non, l'idée c'est plutôt qu'il y ait une sorte d'autocontrôle, de prise de conscience.
Je voudrais revenir un tout petit peu sur les nouveaux outils d'édition du génome.
Oui.
Vous ne semblez pas forcément d'accord avec les experts américains qui, eux, les qualifient d'armes de destruction massive?
C'est-à-dire que quand on regarde de près qu'est-ce que serait cette arme de destruction massive, en réalité, d'une part, lorsqu'il s'agit des organismes pathogènes, en fait, cette technique n'est pas très supérieure à ce qu'on connaît déjà. En revanche, dans un cas très particulier, qui est celui qu'on peut appeler le forçage génétique, c'est-à-dire la capacité de propager à une population entière un gène à type particulier, là, effectivement, il y a un risque. Mais c'est quelque chose de tout à fait particulier, dont on imagine finalement assez mal, sauf un rôle assez suicidaire, assez mal, suicidaire, mais j'allais dire général, assez mal un usage. Ça pourrait être plutôt un usage de type, par exemple, agro-terrorisme ou chose de ce genre. Mais ça paraît assez loin et ça n'est malgré tout pas extrêmement facile à mettre en œuvre.
Antoine Dauchin, ce rapport, il est destiné donc au ministère de la Défense.
Oui, et au ministère de la Recherche, oui.
Bien sûr. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir informer les scientifiques et le citoyen aussi sur les risques.
Alors, le citoyen, il est informé en ce moment par les questions que vous me posez. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus dans le détail.
Ah, vous pensez...
Par exemple, si je vous pose la question, qu'est-ce que CRISPR, le citoyen, que voulez-vous qu'il en fasse?
Oui, mais c'est bon de lui expliquer quand même, non, qu'il soit un petit peu au courant de ce qui se passe dans les labos.
Si c'est bon de lui expliquer, je le crois, ça veut dire qu'il faut effectivement procéder à une éducation essentiellement au lycée, de haut niveau en biologie.
Oui, mais le citoyen est capable de comprendre et la pédagogie est importante dans ce domaine.
Je suis tout à fait d'accord.
Merci beaucoup.
Mais c'est plutôt adressé, dans ce cas-là, aux enseignants.
Merci en tout cas pour vos explications, Antoine Dauchin, avec donc ce rapport du Conseil national consultatif de biosécurité. Merci Axel.
Merci.
À demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour la première fois des scientifiques, on fait un lien entre la thermodynamique et les capacités de notre cerveau. C'est la découverte réalisée par une équipe de physiciens de l'université de Stuttgart, publiée dans le Physical Review Letters, en corrélant l'énergie de notre réseau neuronal à notre capacité d'apprentissage. Les chercheurs ont fait une vraie avancée dans l'étude de ces réseaux qui offre désormais une vision inédite et très générale de son fonctionnement. Découvrir des maladies en analysant la voix, voici l'objectif que s'est fixé la start-up américaine Canary Speech, qui affirme avoir développé un algorithme permettant cet exploit. Pour le vérifier, une importante compagnie d'assurance nord-américaine, qui tient à rester anonyme, s'apprêterait à lui transmettre plusieurs centaines de millions d'appels téléphoniques recueillis au cours des 15 dernières années. Cette avancée pourrait accélérer les diagnostics, mais certains craignent que les compagnies d'assurance s'en servent pour refuser de prendre en charge certains patients. De tels abus existaient avant une loi de l'administration Obama, loi que la nouvelle administration Trump pourrait supprimer. Et puis bientôt un gel contraceptif pour hommes, selon une étude financée par la fondation Parsemus et réalisée sur des singes. Des chercheurs auraient réussi à mettre au point le Vasalgel, présenté comme une alternative réversible à la vasectomie. Lors d'une opération chirurgicale, les primates se sont vus injecter ce gel dans le pénis, bloquant la cavité par laquelle transite le sperme, empêchant ainsi l'éjaculation. L'avantage de cette technique est sa réversibilité. Le gel est dissoluble par ultrasons et n'affecte pas la fertilité de la semence. Des essais sur l'homme devraient bientôt commencer.